Alors bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là ce matin, première journée d'été. Tout à fait, c'est le week-end prochain, la première journée d'été. Mais la température est là. Bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans, qu'on a vus ou qu'on a juste vu leur nom à certains. Soyez bénis aussi et puis j'espère que la connexion fonctionne, qu'il n'y ait pas trop de monde sur la ligne, que vous n'ayez pas trop de soucis. Voilà, alors on a parlé, j'arrive à la troisième étape d'une série de messages que j'avais commencé par les lamentations. Et dans le texte qu'a lu Valérie ce matin, dans Apocalypse 21, dans ma traduction, il y avait aussi écrit qu'il n'y aura plus de lamentations dans le ciel. Donc les lamentations font aussi partie de notre, j'ai envie de dire, notre condition ici sur terre, qu'on peut se lamenter aussi et que Dieu peut aussi accueillir cela. On a parlé ensuite du silence, faire silence devant Dieu. Et une fois qu'on a fait silence, c'est l'écoute. Cette troisième étape sur la voie de la liberté. Alors l'écoute de Dieu, c'est un vaste sujet. Hein, on pourrait en parler, je pense, on pourrait faire tous des séminaires sur l'écoute de Dieu, ça pourrait nous mener assez loin. Alors j'ai dû faire un peu un choix sur quelle partie de l'écoute. Et je me suis focalisé sur l'écoute personnelle de Dieu, donc sur l'écoute, ce que Dieu nous dit à nous personnellement, et qui nous permet aussi d'avancer, de comprendre ce qui se passe, et finalement aussi de faire sa volonté pour nous. Alors pour commencer, je pars du principe, je vais faire le statement, c'est quoi la proclamation, la déclaration en un statement, que Dieu parle, et je pense que, et que nous l'entendons. Ça va si vous êtes tous d'accord avec ça, que Dieu parle et puis que nous l'entendons. Après, on verra comment et les difficultés peut-être aussi, mais qu'on a un Dieu qui parle, c'est pas juste un Dieu lointain, une imagination, d'une divinité. C'est un Dieu vivant qui parle. Et donc nous avons la capacité aussi, grâce à lui, je dirais, de l'entendre. Et je pense, si nous sommes là aujourd'hui, vous êtes venus ici, si vous suivez le culte, vous avez pris la peine de vous lever pour suivre le culte, ceux qui sont restés à la maison et aussi pour ceux qui sont venus ici, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez entendu l'appel de Dieu à le suivre. Donc vous avez entendu sa voix. Ou peut-être vous êtes sur le chemin, vous savez pas encore si c'est sa voix, vous êtes attiré par lui, sans peut-être savoir que c'est lui qui vous attire aussi vers lui. Et la question est donc, comment Dieu nous parle et finalement, comment reconnaître sa voix? Parmi toutes les voix qu'il peut y avoir, intérieures aussi extérieures, comment discerner que c'est sa voix. Alors il y aura deux parties. On va commencer par une première partie qui est un peu un exercice personnel. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit exercice d'écoute personnelle que je vous proposerai, où chacun pourra, ce sera très court, mais ça pourra peut-être être très fort ou très personnel aussi, écouter Dieu. Et la deuxième partie, nous allons nous baser sur un texte de la Bible pour faire une étude sur une manière aussi dont Dieu a interagi avec le prophète Élie. Et je veux préciser que voilà, ça c'est Dieu nous parle par sa parole. C'est pour ça que je pense, tous les dimanches, nous ouvrons la Bible. C'est quand même, ouais, c'est notre livre de référence, mais on parle de la parole de Dieu. C'est parce qu'on sait qu'à travers cette parole de Dieu, nous sommes touchés, Dieu nous parle. C'est un moyen privilégié. Et aussi, il peut nous parler directement par des idées qui nous mettent à cœur, par nos pensées. Il peut aussi nous parler directement. Mais il y a, j'ai envie de dire, mille et autres manières que Dieu nous parle. Hein. Ne limitons pas Dieu. Dieu peut nous parler des fois par un voisin qui nous dit quelque chose. Ça peut être par la nature, ça peut être... je sais pas, une œuvre d'art qu'on voit et tout à coup on voit quelque chose et Dieu nous dit quelque chose à travers ça. Donc Dieu a des manières illimitées pour nous parler. Alors venons-en au premier exercice que je vous propose. C'est un exercice qui est basé sur un livre que j'ai lu qui s'appelle The Invitation. C'est en anglais, malheureusement, mais ici à Genève, c'est très anglophone, donc je suis un peu plus à l'aise d'amener des références aussi en anglais. Je pense que vous savez aussi bien l'anglais. Qui explique aussi qu'on a des désirs. Alors, il parle de désir en anglais, desire. Peut-être en français, on pourrait plutôt parler de besoin, en tout cas des désirs profonds, des besoins qui font partie de nous et que Dieu a la capacité de combler ces désirs par sa parole. Et aussi par des réponses à des questions qu'on lui pose directement. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Si tu peux montrer la deuxième slide. Ça, c'est Voilà, The Desire Wheel, la roue des désirs ou la roue des besoins. C'est sur la base de ça que l'auteur ici nous explique. Voilà, on a différents types de désirs, comme le besoin d'amour, de liberté, de sécurité ou d'appartenance. C'est tout ça est au fond de nous. Et même qu'il y a eu la chute, Dieu n'a jamais souhaité qu'on les nie, ces désirs, mais bien au contraire, qu'ils soient comblés aussi par notre relation avec lui. Vous voyez qu'il y a quatre groupes de désirs: achievement, réalisation, accomplissement, désir de connection, donc connexion, relation, lien, stability, tout ce qui est stabilité, mais la stabilité, l'équilibre dans notre vie, la sécurité. Et puis quatrième groupe, competence, donc toutes les compétences, nos capacités. Donc c'est une, voilà, tous les éléments finalement, on a tous ces besoins au fond de nous, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forts. Certains ont besoin, des fois besoin de beaucoup de sécurité dans leur vie, donc ont besoin d'être beaucoup approuvés. Alors j'ai l'impression que tous ces besoins, voilà, selon ce qu'on a vécu, on a un accent plus ou moins fort sur un besoin ou l'autre. Alors je vais vous proposer, on peut passer à la slide suivante, et puis je vais directement aussi vous transmettre cette slide sur le groupe. Vous pourrez le voir sur votre WhatsApp si c'est un peu trop petit ici. Voilà, alors ici. Donc voilà, je vais vous envoyer aussi ça. Vous aurez ça sur. Vous avez tous des Natel, presque, sinon vous regardez ici. Alors, comment ça va se passer concrètement? J'ai choisi, voilà, on peut faire plusieurs exercices, plusieurs méditations sur la base de ses besoins. Alors, j'en ai choisi quatre ici aussi avec quatre méditations. La première, c'est par rapport aux besoins de justice qu'on peut avoir, basé sur le texte du Sermon sur la montagne. Des béatitudes, voilà. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Donc ici, justice, finalement, cette justice de ce besoin aussi spirituel que Dieu grandisse en nous, ce que sa justice grandisse en nous. Avec cette question que je vous inviterai, c'est pas maintenant, chacun personnellement, vous pourrez choisir entre ces trois, il y a trois possibilités. Cette question que je vous inviterai à adresser à ceux qui choisissent ce thème-là, qui ont l'impression, voilà, la justice, ça c'est quelque chose que j'ai besoin. La question que je vous inviterai à poser à Jésus directement, c'est: Jésus, quelle est la chose dans la vie que j'ai considérée comme une perte, mais qui a en fait créé plus de place en moi pour toi? Ensuite, une deuxième possibilité que vous aurez, c'est plutôt dans le thème de la consolation, avec le verset qui dit: Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est dans Matthieu 5, verset 4. Et la question ici que vous voyez, que vous pouvez relire aussi: Père, tu nous perds un peu chaque fois lorsque nous faisons des choses stupides ou qu'on s'éloigne de toi. Et tu t'en affliges, comme Jésus sur Jérusalem. Et pourtant, tu es aussi l'Esprit consolateur. Comment la consolation peut-elle venir au milieu de tout ça? Troisième possibilité, besoin basique. Donc besoin, ça peut être des besoins physiologiques, physiques, de santé, des besoins matériels, avec le verset qui sous-tend aussi cet exercice et cette question qu'on va poser à Dieu, c'est: Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien dans la prière du Notre Père. Et la question ici, c'est: Père, dis-moi comment je suis plus en sécurité en toi que je le suis dans mon travail, mes compétences, mon argent, mes économies que j'ai fait. Voilà, je vous invite à. Petit moment, peut-être vous dites: celui-là, je prends. On ne va pas les faire les trois, chacun en prend un qui le touche le plus. Et ensuite, en silence, vous prenez cette question pour vous et vous la posez à Jésus. Vous imaginez que Jésus est là, qu'il aime répondre aux questions, qu'il est présent par son esprit, et j'ai envie de dire qu'il a envie de nous parler. Et pendant une minute, c'est pas long, et c'est le but de l'exercice, c'est pas forcément le but qu'on fasse une méditation, qu'on commence de. Mais pendant une minute, vous êtes attentif à ce qui vient dans vos pensées, hein, vous êtes attentif à ce qui vient, à ce que Jésus pourrait vous dire. Une minute, c'est pas le but de forcément creuser, mais spontanément, qu'est-ce qui peut venir? Chacun écoute en silence les réponses donc, qui lui viennent à l'esprit. Et une fois que la minute sera passée, donc je mettrai une sonnerie, vous allez entendre, la minute est passée. Voilà, une minute. Vous pouvez prendre note si vous avez quelque chose à écrire. J'ai pas prévu de bout de papier, mais je pars l'idée que vous avez. Parce que tout ça, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si ce que vous avez reçu, vous le notez simplement, comme ça reste une trace aussi. Et puis on aura l'occasion tout à l'heure dans les exercices en petits groupes de revenir sur ça et peut-être de partager comment vous avez vécu ce temps. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice qui est assez spécifique? Ah oui, il est un peu foncé là, je vais le relire, oui. Donc Jésus, quelle est la chose dans la vie que j'ai considérée comme une perte, mais qui a, en fait, créé plus de place en moi pour toi? Ça joue comme ça, vous êtes prêts? Vous êtes inquiets? Vous demandez ce qui va se passer? Je crois que je vais peut-être encore prier aussi avant. J'ai envie de dire, il faut aller en toute confiance, il ne faut pas trop vous inquiéter. Si vous recevez rien, vous recevez rien, hein, il n'y a pas de souci, hein. Si vous, tout à coup, vous commencez à parler, à penser à toute autre chose, Dieu ne vous en voudra pas non plus. Mais essayons, je dirais, essayons, faire le silence en nous et nous adresser à Dieu. Je vais encore prier aussi, vraiment que ce temps soit placé sous l'autorité de Dieu aussi, que c'est lui qui puisse aussi nous parler. Seigneur, merci parce que nous sommes là ce matin et c'est vrai que tu nous parles, on va faire un exercice, voilà, qui vaut ce qui vaut, j'ai envie de dire, mais c'est des questions qu'on va te poser. Et je te demande de nous surprendre, tout simplement. On a chanté tout à l'heure que tu es un Dieu qui nous surprend. Eh bien, si tu peux nous surprendre par une parole ou un mot que tu vas nous dire, alors que nous te posons ces questions pour combler nos besoins profonds, c'est vrai, nous avons été créés avec des besoins, nous avons été créés avec tous ces besoins profonds, tous ces désirs profonds dans nos cœurs. Ce n'est pas pour que nous les nions ou que nous les mettions de côté, mais c'est avant tout pour que tu puisses les combler. Bien, je demande à ton autorité, Jésus, de s'établir sur nous. Nous, c'est toi que nous voulons recevoir, c'est tes paroles que nous voulons recevoir alors que nous sommes ici rassemblés. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on va poursuivre. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans le livre des Rois. Le livre des Rois, 1 Rois 19, 9 à 17. C'est le texte de, on dit des fois, l'histoire d'Élie dans sa grotte, qui va nous conduire à travers aussi d'autres éléments de l'écoute de Dieu. Là, donc, Élie, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7 000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Voilà cette histoire d'Élie qu'on trouve dans le premier livre des Rois. Un texte. Dans l'Ancien Testament, il y a deux livres, un livre des Rois, et puis la tradition juive veut qu'on attribue ce texte des livres des Rois à Jérémie, le prophète Jérémie. Car il y a des parentés au niveau du vocabulaire, aussi du style utilisé entre ces deux livres. Écrit durant 400 ans environ, donc de moins 970 à moins 568, ça c'est la période, en gros moins 1000 à moins 5-600. Et ça a sans doute été achevé le texte avant la fin de l'exil du peuple d'Israël. comme le dit le titre, un livre des rois. Donc, c'est toute une série d'histoires des rois d'Israël et de Juda avant le schisme. Avant, c'était ensemble. Ensuite, il y a eu un schisme avec Juda au sud et Jérusalem, la capitale, et puis Israël au nord avec Samarie, la capitale. Il y a trois sections ici, l'histoire de Salomon d'abord jusqu'au chapitre 11, ensuite l'histoire de Juda et d'Israël jusqu'à la chute de Samarie, et, donc et c'est là qu'on se trouve aussi avec ce texte d'Élie. Et puis ensuite dans Deux Rois, à partir du chapitre 18, c'est l'histoire de Juda jusqu'à l'exil. Quelques mots, comment est-ce qu'on en arrive là? Je n'ai pas lu les passages d'avant, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Comment ça se fait que tout à coup, Élie est dans cette grotte? Donc, la première chose, au chapitre 17, Élie annonce là que la pluie et la rosée n'arroseront le pays que sur sa parole. Donc, en d'autres termes, il annonce une famine et c'est lui qui va y mettre fin. Ensuite, il va au torrent des Kérites, où il est nourri par des corbeaux. Il va ensuite à Sarepta, où une veuve le nourrit. Beaucoup souvent de nourriture hein, avec Élie, là. Il a besoin d'être nourri. D'abord, cette veuve lui dit « Mais je ne veux pas te nourrir parce que j'ai déjà à peine assez pour moi et mon fils. » Alors, il insiste un peu. Finalement, Élie lui dit « Mais tu as quand même de l'huile et de la farine. » Elle dit « Oui, ça j'ai. » Alors, il dit « Tu prépares au moins. » Alors, quand tu prépareras ton prochain pain, t'en fais un pour moi. Et puis, bien sûr, tu ne t'oublies pas non plus, t'en fais pour toi et ton fils. Et ensuite, un drame se passe. Le fils de cette veuve meurt. Il tombe malade et meurt. Et ce fils va ressusciter par l'action d'Élie. En tout cas, Élie fait quelque chose d'assez spécial. Il va se coucher trois fois sur ce fils. Et après la troisième fois, ce fils ressuscite et il le redonne à sa mère. Et chapitre 17, chapitre 18, il y a cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Donc, il nous a dit que c'est 3 ans plus tard. Donc, la famine avait déjà bien sévi dans le pays. On voit qu'il parle d'abord à Akab, c'est le roi d'Israël. Et puis, là, un serviteur, Akab, s'appelait Abdias. Il a dit qu'il craignait spécialement l'Éternel et il avait réussi à sauver 100 prophètes de l'extermination des prophètes d'Israël. Donc Jézabel avait exterminé les prophètes d'Israël et puis lui, ce Abdias, il a réussi à en sauver 100. Ça me fait penser aussi hein, aux Juifs qui ont exterminé, à des gens qui les cachaient, qui arrivent à les sauver. Ici, c'était un peu Abdias, il avait vraiment à cœur que pas tous ces prophètes d'Israël soient tués. Ensuite, Élie affronte Akab et il demande à tout le peuple de se rassembler sur le mont Carmel pour qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu par rapport aux dieux qui sont invoqués par les prophètes de Baal. Et le résultat, vous connaissez certainement les dieux des prophètes de Baal. Ils invoquent leur dieu, rien ne bouge, ils font un autel, ils préparent le bois, ils préparent les animaux, ils imposent leur dieu, rien ne se passe. Et ensuite, Élie, lui, il invoque Dieu et le feu descend du ciel et, je cite, « Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il avala l'eau qui était dans le fossé. » Un feu puissant qui a tout brûlé et qui a tout finalement, qui a impacté tout ce qui se trouvait sur cet autel. Et ensuite, cette fin tragique, hein, tous les prophètes de Baal sont pris par le peuple. Il a dit qu'ils ont été amenés au bord du torrent de Kizon, où Élie les égorgea tous. Vous voyez un peu l'image, quoi. Hein. Donc, il appelle le peuple d'Israël, amenez tous ces prophètes, lui et tout, il les égorgeait l'un après l'autre. Donc, un massacre perpétré par, on peut dire par Élie ici, hein. C'est lui qui a fait ça. Après, on ne va pas entrer dans les détails pourquoi il l'a fait, comment, ça, c'est finalement le contexte hein, du texte qu'on a lu aujourd'hui. Après, il est remonté sur le mont Carmel, il s'est penché jusqu'à terre et a mis son visage entre ses genoux. Donc, il a voulu être dans sa bulle. On parlait avant d'être dans sa bulle. Et puis, il demanda à son serviteur, à 7 reprises, d'aller voir s'il voyait un nuage. Et ce matin, quand j'arrivais ici, je voyais le ciel bleu, je voyais aussi un nuage en haut. Je ne sais pas s'il va annoncer la pluie. Mais la pluie va arriver, je pense, tôt ou tard. Mais là, il y était une sécheresse. Donc, vous imaginez, quand on voit un nuage et puis qu'il y a une sécheresse pendant 3 ans, je pense que c'est autre chose que quand on voit un nuage comme moi ce matin, où on sait que tôt ou tard chez nous il va pleuvoir et puis on n'est pas trop. Quoique, on va vers l'été aussi, peut-être qu'on aura aussi un peu sec cet été. Donc voilà, il demande à un serviteur et puis finalement la 7e fois le serviteur revient et dit « J'ai vu un nuage » et c'est finalement l'accomplissement de cette confiance qu'il avait. Je pense à ça maintenant aussi. Élie, finalement au début, vous voyez, il a voulu C'est lui qui allait commander quand la pluie revenait. Et là, tout à coup, il était comme dans sa bulle, il ne savait plus trop ce qui se passait. Il se confiait en Dieu, mais il n'osait même pas voir si il n'osait même pas voir si ce nuage arrivait. Il était peut-être qu'il doutait aussi, est-ce que Dieu va vraiment faire venir cette pluie? Il envoie son serviteur, lui reste dans sa bulle. Et finalement, je pense qu'il a aussi été soulagé de voir que la pluie arrive et que la sécheresse se termine. Nous avons ensuite ce passage et à la fin, juste pour clore un peu les textes qui entourent, on a à la fin l'appel d'Élisée, alors qu'il travaille dans les champs, il est en train de labourer, vous connaissez certainement aussi ça, Élie jette son manteau sur Élisée. Ce dernier, il offre sa paire de bœufs en sacrifice. Il allume le feu avec le bois de son attelage et puis il offre ça à Dieu. Et puis il nourrit aussi, il a dit qu'il nourrit le peuple avec la viande qui a été grillée sur cet holocauste. Et puis il est devenu le serviteur d'Élie. On peut dire l'apprenti prophète. Voilà un peu le cadre dans lequel a lieu cette histoire. Revenons maintenant au texte. Tu peux passer la slide suivante. On voit quand il arrive dans cette grotte, Élie, il pose une question à Dieu la première fois. Non, pardon, Dieu adresse une prière, une première fois à la parole et il dit « Que fais-tu ici, Élie ?» C'est le verset 9. C'est une question ouverte qu'il demande. Toute simple, mais qui a comme conséquence qu'Élie peut vider son sac, lui se lamenter « Je suis zélé pour Dieu » et effectivement, il était très zélé pour Dieu. Israël a abandonné Dieu, les prophètes sont tous morts sauf moi, et il se sent menacé à son tour. Élie, il est seul au désert et je suis en train de me rendre compte, pardon, il y a encore une petite chose que j'ai oubliée juste avant le chapitre 19, hein, il y a encore Jézabel qui est très fâchée, hein, juste ça j'ai oublié de le signaler. Jézabel est très fâchée de ce qu'Élie a fait, dégorgé, elle lui dit maintenant c'est moi qui vais te faire subir le même sort que tu as fait subir à ces prophètes. Donc c'est là qu'Élie a peur, hein. Il se sauve et il marche dans le désert, et il se couche sous un genêt dans le désert et il demande à l'Éternel, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et là on voit un ange qui s'occupe de lui. À deux reprises, il le réveille, lui demande de se lever, de manger, de boire ce qui était à sa disposition, un gâteau et une cruche d'eau. Et la deuxième fois, quand l'ange le réveille, il s'est nouveau rendormi, il lui précise qu'il a besoin de force pour un long voyage. Donc c'est là il fait un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb où il rencontre Dieu, où il est dans la grotte. Donc ça précède un voyage de 40 jours. Et là donc Dieu lui adresse la parole, que fais-tu ici? Il vide son sac, il dit que je suis seul et tout. Et puis après au verset 11, Dieu lui parle à nouveau et puis pour lui demander de sortir de sa grotte et de se tenir devant l'Éternel. Ensuite il y a ces différents déferlement d'événements naturels qui se passent, un vent qui déchire les montagnes et brise les rochers, un tremblement de terre, un feu. Mais à chaque fois, il a écrit, l'Éternel n'était pas là. Dans ces circonstances, il n'était pas là. Et finalement, il y a un murmure, ou dans d'autres traductions, un bruissement doux et léger, dans lequel Élie reconnaît que Dieu est présent. Et là, il sort, j'ai envie de dire, il sort enfin de sa grotte, son visage couvert par son manteau, car il savait et on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Donc il craignait Dieu aussi. Et puis à la fin de ce verset 13, Dieu rebelote, il repose à Élie la même question. Hein? Dans d'autres passages, hein, Jésus aussi a posé plusieurs fois les mêmes questions. Là, une deuxième fois, que fais-tu ici, Élie? Il repose la question. Et là, il répond de la même manière que la première fois. Il se plaint, il est seul, survivant, zélé pour Dieu, il déprime. Est-ce que c'était un copier-coller de... C'est un copier-coller dans le texte, mais non, je crois qu'il y a vraiment eu une deuxième fois, une deuxième question. Et là, Dieu lui demande, alors ça va plus loin, de quitter sa grotte sur le mont Horeb et d'aller à Damas. Et le voyage, c'est un marcheur, Élie, hein. Il a marché de Beersheba à Horeb déjà, on estime que c'est 400 kilomètres. Il marche de Horeb, où il est maintenant. Dieu lui demande d'aller à Damas, au nord d'Israël, et on estime que c'est 500 kilomètres. Et là, il lui dit trois choses. Qui doit faire trois choses, et une quatrième qui est la surprise pour lui, je pense. Première, il demande de oindre par onction un roi étranger. C'était le roi syrien, il n'a pas demandé tout de suite. Va oindre un roi étranger, Hazaël. Tu vas oindre pour consacrer un nouveau roi d'Israël, c'est Jéhu. Et puis, tu vas faire de même pour un nouveau prophète qui va te remplacer, Élie. Et puis la quatrième chose, il y a cette surprise. Il dit, mais, Dieu lui dit, mais j'ai Je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte? Je me suis noté quelques points ici. Je vois que le temps avance. Je vais plus faire trop long. Tout d'abord, le tonnerre, tremblement de terre, feu. Je me suis dit, c'est aussi Dieu finalement. On ne peut pas dire, parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible hein, qui nous disent, je pense aussi Élie en était conscient, il a vu peu de temps avant le feu de Dieu tomber sur ses prophètes, et c'est Dieu qui a envoyé son feu, donc Dieu était aussi présent dans ce feu, ou Dieu a envoyé ce feu. Certainement aussi que Élie se souvenait du texte qu'il avait déjà de Moïse sur le mont Sinaï. Où Dieu l'a rejoint, il y avait un tremblement de terre de la montagne tellement que c'était puissant. Donc là aussi, Dieu était présent. Donc je vois ici un peu deux dimensions de l'écoute, un peu celle d'un Dieu qu'on entend ou d'un Dieu qu'on s'imagine ou d'un Dieu qui peut-être dans lequel on a fait des expériences passées ou qu'on nous a dit peut-être, mais un peu de manière impersonnelle. Et puis il y a deuxième dimension où Dieu ici veut amener Élie, c'est cette dimension d'un Dieu qui entre en relation personnelle avec nous, à travers un murmure doux et léger, qui demande ce silence pour pouvoir aussi entendre ce que Dieu veut nous dire. Deuxième point, ben, le discernement, c'est pas, c'était pas. Élie l'a compris hein, aussi. À un moment donné, il a dit l'Éternel n'était pas là, donc il savait qu'il n'était pas là. Et tout à coup, quand il a eu ce doux murmure, qu'est-ce qui lui a fait dire qu'il était là? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a eu ce discernement. Pour reconnaître la voix de Dieu. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à discerner la voix de l'Éternel qui s'adresse à nous aussi de manière très imperceptible souvent. Un murmure doux et léger, c'est difficile à percevoir. Si on prend un vent, c'est invisible. C'est inodore en principe. C'est quasiment inaudible. Donc pour ça, il faut vraiment faire silence pour pouvoir être attentif et entendre Dieu dans ce doux murmure qui veut nous parler, pour entendre la voix de Dieu. Et après, il nous demande peut-être aussi Dieu parfois, mais simplement, que fais-tu ici? Ou peut-être qu'il nous dit, où en es-tu sur ton chemin? Ou simplement, peut-être qu'il vous demande des fois, comment vas-tu? Hein, c'est pas toujours des. Il veut être en relation personnelle avec nous. Puis après, je me suis dit, comme s'il ne savait pas comment on allait. Comme s'il ne savait pas où on était. Comme s'il ne savait pas ce qu'on faisait. Hein, Dieu qui sait tout, pourquoi il pose ces questions? Mais je pense qu'il veut qu'un chemin se fasse dans notre cœur. Que nous, on parle, qu'on exprime nos choses, et pas alors qu'il est le Dieu omniscient qui sait tout. Et à cette rencontre où ces questions s'y répétaient, hein, deux fois la même question, deux fois la même réponse, j'ai l'impression que c'est un tournant dans la vie d'Élie. Avant cette rencontre, il se croyait certes zélé, il était pour Dieu actif pour parler aux hommes de la part de Dieu, il était prophète, hein, c'était pas rien prophète, c'est lui qui annonçait les jugements, qui annonçait souvent des catastrophes qui arriveraient. Et là, ne devait-il pas aussi un peu apprendre l'humilité? Dans le chapitre 17, il est écrit que Élie annonce que la pluie et la rosée n'arroseront le pays que sur sa parole. Wow. Je me demandais s'il n'a pas un peu pris le pouvoir de Dieu sur lui. C'est moi qui vais annoncer quand la pluie va revenir. L'écoute de Dieu est aussi une interprétation, je vous ai mis. Une interprétation qui traverse aussi toutes nos capacités cognitives, humaines. Finalement, on n'est pas Dieu, nous. Ça passe par nous avec toutes nos connexions, nos cognitions, et puis ça veut aussi dire qu'on peut parfois se tromper, on croyait entendre. On peut aussi douter de la source, est-ce que c'est Dieu ou mon imagination? Hein, Catherine parlait avant de cette maison à Gland, on a tous l'impression, moi le premier, que Dieu a ouvert, Dieu a parlé, Dieu a influencé, et tout à coup. Alors voilà, on s'est trompé, simplement, je pense qu'on s'est trompé, ou en tout cas, c'était pas le bon plan encore, et encore mieux, etc. Mais c'est toujours une interprétation quand même, la voix de Dieu, c'est pas absolu. Et si je prends ici les versets 9, il est écrit « La parole de l'Éternel lui fut adressée », donc à Élie. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et puis au verset 13, quand il entend la présence de Dieu dans ce souffle, dans ce murmure, il est écrit « Et voici qu'une voix lui fit entendre ses paroles ». Je trouve intéressant, tout à coup il parle d'une voix, comme si tout à coup, attends, mais c'est vraiment Dieu? Avant c'était clair, donc le narrateur dit « C'est l'Éternel qui leur parle », ici c'est une voix. Est-ce que peut-être qu'il a quand même un peu douté, il n'était pas sûr, hein, ça passait quand même dans ses réflexions à lui. Et puis voilà, cela prend d'écouter la voix de Dieu, ça s'exerce, ça prend du temps. Et c'est aussi un combat de toujours faire un combat d'une vie, j'ai envie de dire. Et quand on sera dans la présence de Dieu, ben là je pense qu'on n'aura plus de doute que Dieu est présent. Quand il nous parlera, on n'aura plus de doute. On sera vraiment dans une, j'ai envie de dire, une relation tellement absolue, profonde, belle, inimaginable. qu'on ne devra plus faire ce discernement entre qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient des autres. Et Dieu s'est repris à deux reprises avec Élie, car il avait certainement besoin que cette parole pénètre son cœur et qu'il soit aussi prêt à entendre la mission que Dieu allait lui dire. S'il avait peut-être dit la première fois, il n'aurait peut-être pas allé, il aurait peut-être douté, il a besoin de lui rappeler une deuxième fois. Puis aussi, Élie a besoin d'encore une fois lui dire où il en était dans sa vie. Encore un point, Dieu nous réserve des surprises et ses plans sont bien différents des nôtres, souvent. Hein, quand il reçoit son énoncé de mission, Élie, hein, en particulier la promesse de Dieu qu'il va laisser 7 000 hommes justes, je vois ici ce décalage entre la vision limitée et imparfaite d'Élie. Il était convaincu qu'il était le dernier survivant, hein, qu'il n'y a plus personne, c'est le seul encore zélé qui aimait Dieu, le vrai Israélite qui craint Dieu. Et Dieu lui dit, j'ai un plan, tu sais que il restera 7 000 hommes justes. Et je vais aussi nommer deux nouveaux rois, je vais nommer un nouveau prophète, peut-être qu'il ne se l'imaginait pas encore tout ça dans ses calculs. Il était plutôt dans une phase déprimée, il avait fait son boulot avant, il avait détruit tous ses prophètes, il avait agi. Et là, il avait besoin de se retrouver et puis d'entendre des choses de Dieu directement et puis une nouvelle perspective de Dieu pour lui. Et là aussi, certainement que ça a été une leçon aussi d'humilité pour lui. Et sur notre chemin d'écoute et de recherche des réponses à nos questions, acceptons aussi les réponses ou parfois les non-réponses ou les réponses qui se font attendre. Il y a toujours un risque un petit peu, c'est qu'on puisse aussi, j'ai envie de dire, par notre connaissance, par notre imagination, voire notre expérience aussi, un peu forcer la réponse de Dieu. On n'a pas de réponse, on commence à l'imaginer, de la faire. Essayons de rester aussi toujours prêts à entendre ce que Dieu veut vraiment nous dire lorsque nous nous adressons à lui. Avec Jésus, dernier point, qu'est-ce qui a changé avec la venue de Jésus par rapport à cette parole de Dieu et à notre écoute? Mais ce qui nous est révélé avec Jésus, c'est que sa parole qui nous est annoncée, ce n'est pas seulement une voix, un son, mais c'est une personne, c'est lui. Hein, dans Jean, vous connaissez bien ce texte, qu'il a dit, je suis Dieu, au début était là, et la parole était Dieu, et la parole c'était Jésus. Et puis cette parole de Dieu, elle fait son chemin en nous afin que nous sommes aussi toujours plus transformés à l'image de Christ. Et ça signifie donc que notre écoute, notre compréhension de qui est Dieu et de sa volonté pour nous, aussi évoluer, être souple dans la main de Dieu. J'ai parfois l'impression qu'on comprend des fois quelque chose à un moment, après on le comprend différemment, on le comprend ouais, d'une autre manière, toujours rester souple et se laisser transformer à l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu que l'on comprend, vous avez certainement aussi deviné comme moi, ce murmure bruissement doux et léger, qu'on peut comparer ça à l'Esprit de Dieu qui souffle, on parle aussi dans le texte Parole de vie, le bruit d'un souffle léger. Il a été répandu puissamment, on a fêté ça il n'y a pas très longtemps, la Pentecôte, et puis cet esprit, il vit en nous et parmi nous pour communiquer les paroles du Père que l'on reçoit par Jésus. Donc avec la parole de Dieu, celle qui s'adressait à Élie, elle prend une nouvelle dimension sous la nouvelle alliance. C'est plus cette voix, c'est un son qui s'adresse au prophète uniquement, c'est une personne, Jésus, qui nous a quittés, certes, mais c'est l'Esprit Saint envoyé par le Père qui nous permet aujourd'hui d'être à l'écoute de Dieu directement. On l'a fait au début, on peut poser des questions à Dieu sans intermédiaire, on n'a plus besoin d'un prêtre entre deux, on n'a plus besoin voilà, d'un prêtre qui nous communique la parole comme c'était dans l'Ancien Testament. Voilà, conclusion, on a vu ce matin qu'on peut écouter Dieu et que Dieu souhaite nous parler. J'ai même envie de dire que c'est notre Père, il a envie de nous parler. Et il a envie de nous parler, pas juste pour nous dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, mais j'ai parfois l'impression qu'il a juste envie de parler des fois avec nous. Hein, et l'exercice qu'on a fait au début, c'est peut-être aussi intéressant de poser des questions un peu ce que lui pense de nous, ce qu'il peut nous donner. On a tendance peut-être des fois d'aller à Dieu uniquement pour lui demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, mais peut-être qu'il va aussi nous dire, mais ce que tu fais déjà bien, ça peut des fois être ça, ce que tu fais déjà bien, je veux pas de plus de toi pour l'instant. Ou voilà, un peu ramener peut-être la parole de Dieu à quelque chose de plus simple et de plus accessible à travers différentes possibilités qu'on peut découvrir pour soi. La parole de Dieu a le pouvoir de nous transformer peu à peu à l'image du Christ. Donc mettons-nous vraiment à l'écoute et laissons Dieu nous parler par la lecture de sa parole. Et je crois que chaque texte, chaque mot, chaque histoire de la Bible, comme celle d'Élie, a le pouvoir de nous toucher, de nous rejoindre où on en est, même quand on est seul dans une grotte, comme Élie, perdu et sans espoir, comme Élie. Et pourquoi on lit la Bible toujours? Eh bien, on se réfère à ce livre parce que c'est vraiment par ce livre et par l'action du Saint-Esprit que Dieu peut nous parler. Récemment, on a fait une réunion, puis on parlait du psaume 23, un peu en discussion, et puis il y a un pasteur qui disait, mais c'est ce psaume, c'est incroyable comme les gens sont touchés toujours par son, puis comme ils sont. Elle a comme ça des psaumes, c'est un exemple pour dire, le psaume 23, vous le connaissez certainement par cœur, ou quasiment par cœur, c'est un psaume, chaque fois on leur dit, j'ai l'impression que chaque fois Dieu nous parle, chaque fois nous dit quelque chose. C'est pas juste, ouais, je le sais ce psaume, mais la puissance de la parole de Dieu. Je terminais par deux versets qui illustrent encore bien ça pour clore ce sujet de l'écoute de Dieu. Je vais passer à la slide suivante. Ce premier se trouve dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, 5 à 6. Donc écouter Dieu, c'est le reconnaître dans nos voies, dans nos chemins de vie et lui permettre aussi de tracer des sentiers droits dans nos vies. En d'autres termes, c'est aligner aussi notre volonté sur celle de Dieu en étant à son écoute. Et le deuxième verset se trouve dans, c'est une parole de Jésus qui se trouve dans Jean 8, 31 à 32. Alors il dit aux Juifs, donc Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on a parlé de se lamenter, de faire silence, d'écouter la parole de Dieu, c'est afin de connaître la vérité. C'est Jésus et cela nous rend libres. Après la bonne question, mais ça serait un autre message, mais libre de quoi? Libre de quoi? On peut faire ce qu'on veut. Mais en résumé, j'ai mis libre d'aimer. Libre d'aimer Dieu, marcher avec lui, lui parler, le suivre. C'est un choix finalement chez nous de suivre Dieu. Dieu ne va jamais nous tirer avec lui. D'aimer notre prochain autour de nous et puis aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La grotte. Et là, je me dis l'idée, la grotte, le tombeau hein, de Jésus, peut-être, on peut aussi voir ça, n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de liberté pour Élie. Et pour nous aussi, à travers Jésus, c'est une nouvelle étape, la résurrection. Sortir de cette grotte de la résurrection, aussi une nouvelle étape de liberté pour nous.